하나님의 말씀은 요한복음 6장
La parole de Dieu se trouve dans Jean 6, 60-71. Jean 6, 60-71. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et si l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était celui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Dieu le Père, donne la grâce et les bénédictions à tous ceux qui t'ont remercié comme suit. Que toi, tu te souviennes de tous ceux qui t'ont remercié, même si tous leurs noms n'ont pas été appelés. Que tous les Béréens et les membres de l'Église en l'Arc qui sont avec la croisade dans tout le pays, qu'ils reçoivent la grâce et les bénédictions s'ils ont un cœur aspirant. Qu'aucun de nous ne fasse semblant de savoir alors qu'il ne sait pas et que nous ne connaissions pas superficiellement. Agis en oignant les lèvres de ton serviteur. Qui sache correctement ce qu'est que la parole de la vie éternelle, et qui puisse l'observer. Je prie au nom de Jésus. Amen. Qu'au nom de Jésus, que la grâce de Dieu accompagne tous ceux qui l'ont remercié. Je vous demande de vous inscrire pour les cours des leaders spirituels suprêmes dans notre séminaire. Pour pouvoir vous préparer en tant que leader spirituel. Pour que tous vraiment vous soyez traités comme des maîtres. Comme vous venez de lire, beaucoup étaient venus à Jésus, étaient partis parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Et Jésus ne les a pas empêchés de partir. Vous aussi, vous voulez me quitter. Et Pierre qui dit, Tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous? Et c'est justement à partir de ces 11, l'un s'est rompu, que l'Évangile s'est propagé et que l'Église aussi a été établie, à travers laquelle le monde entier est sauvé. Vraiment, nous avons besoin de leaders. Vous savez très bien, spirituellement, quelle est la grande crise dans les églises coréennes. Combien les églises sont corrompues, les pasteurs sont faibles. Quand on ne comprend pas bien la vérité, on est séduit d'une façon ou d'une autre. Et une fois qu'on est séduit, c'est impossible de s'en échapper parce que Dieu envoie un esprit d'égarement. Une fois qu'on a la conscience marquée au fer rouge, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Et c'est par manque de connaissances spirituelles. C'est pourquoi en l'an 2050, les musulmans ont déclaré qu'ils feraient de la Corée un pays totalement musulman, et c'est possible. C'est pourquoi j'ai écrit dans mon livre qu'en l'an 2050, il y aura 12 millions de musulmans et 3 millions de chrétiens seulement en Corée, dans mon livre Sangnam-in. Veuillez tous le lire si vous n'avez pas encore fait. Depuis l'année dernière aussi, on croyait que le problème avec les Nord-Coréens aurait été résolu. Mais d'après l'inspiration que j'ai reçue de Dieu, j'ai dit que cela n'arriverait pas. Au mois de février, tout était fait. Mais j'ai annoncé auparavant que cela ne s'était pas fait. Combien c'est dangereux. J'avais déjà dit que le problème des armes nucléaires en Corée du Nord ne serait pas résolu. Jésus a dit dans la Bible que tout problème spirituel, quand un démon est parti, il part pour chercher un endroit où se reposer et ne trouve pas d'endroit aride et il entre avec sept démons plus méchants. Et ce sera la situation dans les derniers jours. Et il y a toujours un problème spirituel qui peut expliquer tout. C'est pourquoi il faut devenir un leader spirituel pour l'Église, pour le royaume du Seigneur. En l'an 2050, quand les chrétiens seront seulement 3 millions, et c'est inévitable, et les musulmans ne feront qu'augmenter de nombre. Il faut vraiment bien connaître la vérité et les problèmes spirituels. C'est seules ces églises qui détiennent cette connaissance survivront. Parce que l'enseignement musulman est non spirituel et rationnel, alors que notre foi est spirituelle et irrationnelle. C'est exactement l'opposé. Et sans la puissance spirituelle, comment triompher de ce qui est rationnel et non spirituel? Nous, c'est spirituel et irrationnel. Comment se battre contre eux? Il faut avoir une connaissance. Vous devez connaître le problème rationnel et Donc, il ne faut pas simplement apprendre, il faut enseigner aussi. Ces leaders spirituels suprêmes deviendront des directeurs internationaux. C'est pourquoi je vous demande d'étudier. Et si on veut devenir un leader, il faut investir financièrement. Et ces études de leaders spirituels suprêmes, on ne tient pas compte des études qu'on a fait auparavant. Dans toutes les universités coréennes actuellement, on ouvre des cours pour les leaders suprêmes dans tout domaine. Et on ne demande pas d'être qualifié académiquement parlant. Même si on n'est pas sorti de l'école primaire, on considère l'expérience qu'on a accumulée comme qualification académique. Donc, il y a ces cours. De leaders spirituels. Donc, ils ont travaillé dans des usines ou en tant qu'artisans. Hein. Donc, ils sont étudiés non pas avec leur tête, mais avec leur corps, avec leur savoir-faire. Et ceux qui sont qualifiés comme ils n'ont pas de signes apparents qui sont leaders, qu'on a créé simplement ces cours. Donc, comme tout le monde a fait l'Académie Béret, on
ne
donne pas simplement une robe spéciale lors de la remise des diplômes. Et c'est un manteau attribué aux savants. Et le manteau est plus long de 20 centimètres. Semblable à celui d'un docteur. C'est différent au niveau de la maîtrise. Et c'est ce qui est attribué à ceux donc qui ont fini ces études. Ce sont des leaders spirituels suprêmes. Donc c'est entre la maîtrise et le doctorat.
Quand
les gens âgés de notre église n'ont pas eu le temps d'étudier pour s'occuper de leurs enfants. Ils ont fait ces études de leader spirituel suprême. C'est ce que vos descendants, leurs descendants seraient capables de dire. Pour faire une maîtrise dans une institution mondaine, il faut 24 à 40 points. Alors que dans notre séminaire, c'est une institution d'études supérieures et il faut 100 points. Donc, ce sont des études supérieures, mais c'est essentiellement différent des autres institutions. Parce que le directeur de le directeur ne peut donner le diplôme. Alors que dans notre séminaire, c'est le président du séminaire qui donne les diplômes. C'est complètement différent. C'est pas au même niveau d'études supérieures. C'est peut-être le même. Nominalement, c'est le même. C'est toujours maîtrise, mais c'est différent parce que il faut 30 points, alors que dans notre séminaire, pour avoir la maîtrise, il faut étudier 3 fois plus. Il faut 100 points. Et puis celui qui donne le diplôme, ce n'est pas le directeur du collège d'enseignement supérieur qui peut le donner. On ne peut pas donner de diplôme en son nom. C'est pourquoi certains ont abandonné tout de suite leur président d'une école. D'études supérieures pour devenir président justement de ce genre de séminaire qui est le nôtre. Et c'était par une loi spéciale du président à l'époque que les universités sans campus ont été autorisés à être établis au sein d'une ville. Donc je le répète, on tient compte de ces expériences académiques pour pouvoir être qualifié. Alors que dans ces cours de leader spirituel suprême, on peut être autorisé à s'y inscrire, puisqu'on considère les expériences comme qualification. Donc, n'importe qui ne peut pas entrer.
그것까지 구체적으로 보지 않아서 무한 삼은 그냥 함께 거기 들어온 사람 있는가 모르지만 그 경력을 함께 인정하는 겁니다. 경력을 인정하는 겁니다.
Mais on reconnaît tout le passé d'expérience. Donc veuillez vous inscrire pour ces cours pour devenir des leaders spirituels suprêmes. Pour que vos descendants soient fiers de vous en tant que leader spirituel. Et en fait, ce n'est pas pour la gloriole qu'on a cousu ces manteaux à partir de ce samedi. Donc veuillez vous inscrire pour étudier. La Bible entière parle de problèmes spirituels. Si on enlève la spiritualité dans la Bible, c'est un livre mondain, sans vie, qui ne peut sauver l'âme, dénué de puissance. Mais parce que c'est spirituel qu'il y a la puissance, la vie, et qu'on peut sauver les âmes. La parole de la vie éternelle, est-ce que c'est parole de Dieu ou langage? Donc, veuillez vous inscrire pour ces cours. Vous avez compris? Et les hommes d'affaires, tous ceux qui n'ont pas eu le temps d'étudier. Et même les pasteurs. Moi, je veux que les fidèles de notre Église puissent jouer leur rôle pour le ralliement des Béréens en l'an 2010 et en 2020. Ça fait partie de ma prédication. J'entends le cantique 500. Il n'y a pas de plus grande joie que la voix du Seigneur.
Oh, 싶을 때 늘 계시옵소서.
Yes.
기쁘고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나 주께 왔사오니 복주옵소서. 귀귀한 언약을 이루어주시고 주 명령 따를 때 늘 계시옵소서. 기쁘고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나 주께 왔사오니 복주옵소서. 아멘.
예. 자, 하나님의 말씀을
Jean 1, 1, il est dit que la parole de Dieu, qui le sait? Jean 1, 1, qu'a-t-on dit de la parole de Dieu? Que la parole était Dieu. Et c'est la réalité, mais c'est de cette manière que vous le savez. Est-ce que pour vous, la parole de Dieu est Dieu? Et on croit que c'est une expression symbolique. Parmi les commandements, celui qui prend en vain le nom de Dieu ne sera pas considéré comme innocent. C'est le troisième commandement. Si on appelle n'importe quoi Dieu, celui-là ne sera pas pardonné. Celui qui abuse du nom de Dieu et appelle n'importe quoi Dieu est maudit. La parole de Dieu est Dieu. Il ne faut pas croire que, qu'on parle symboliquement de Dieu. Autrement, on est maudit. Qui est Dieu? Vous êtes vivant, je suis vivant. De même que nous, nous sommes vivants et c'est une réalité. Dieu est vivant. Les hommes vivent 60-70 ans et meurent, alors que Dieu ne meurt pas. Il vit à perpétuité. C'est le Dieu vivant. L'homme est né, l'homme a été créé, alors que Dieu n'a jamais été créé, il n'a jamais été engendré, il existe par lui-même. Les anges dans les cieux existent parce que il y a les cieux. Autrement, ils ne savent pas où aller. Les anges sont des serviteurs célestes. Les hommes ne peuvent exister sans la terre. Ils sont issus du sol. Avant même que la terre, les cieux existent, Dieu était de par lui-même. Il existe par lui-même. C'est celui qui existe avant même que les cieux n'aient été créés. C'est pourquoi il est unique. C'est celui qui crée tout. Les hommes ont toutes sortes de talents, mais ils ne peuvent rien créer, en fait. Et en fait, la musique qu'on entend dans les cellulaires, j'ai déposé ce brevet. En fait, j'ai un brevet international. Et même si on l'utilise dans tous les pays, je ne peux pas porter en justice. Imaginez, il faut que j'investisse au moins 50 à 100 milliards pour pouvoir me battre contre les grandes entreprises qui ont 60 avocats à leur service. Et l'ancien Lee a déposé ses brevets. Et je me demande que faire. La musique qu'on entend dans les cellulaires, c'est mon brevet. Et je ne peux pas porter en justice parce que c'est trop coûteux. Je ne peux pas me permettre de me battre contre des milliardaires. Aucun moyen de contester et de dire que c'est mon brevet, puisqu'ils vont, avec leur argent, m'écraser tout de suite. Et c'est pas facile. C'est pourquoi même si on... Et tous les brevets... Et puis le fait de pouvoir mettre en marche le moteur d'une voiture sans la clé. J'ai aussi ce brevet pendant 5 pays. Et comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas protester. C'est trop compliqué. Et j'ai reçu le prix du roi des brevets. Plutôt que de gagner de l'argent, je me dis que historiquement parlant, j'ai eu ces talents. Et vraiment, ces deux brevets, c'est moi qui les ai. Vous utilisez une clé, mais on peut mettre en marche une voiture sans clé. Sans clé. Et on peut le faire sans clé maintenant, à main nue. Et puis la musique dans les au téléphone, dans les téléphones. Et mes brevets sont valides. J'ai déposé environ 20 brevets. Certains ont disparu. Je suis un grand homme, mais je ne peux pas faire de l'argent avec ma grandeur. Mais je vous le dis, ces deux brevets sont vraiment quelque chose. Quand je veux commencer à prêcher, on entend la musique. Quelqu'un reçoit un coup de téléphone lors d'un enterrement. Vraiment, si j'arrêtais de mener mon pastorat, je pourrais m'occuper complètement de cette affaire.
또는 실리콘에도 그것도 내가 특허낸 것이고요. 그러나 전 세계가 아이들 가서 놀게 놔두는 게 아니에요.
Et puis aussi l'instrument de musique joué par les enfants, ça provient aussi, c'est mon brevet. Je suppose qu'on va mettre ces brevets dans mon musée. Mais ce que je veux dire, les hommes prétendent avoir inventé quelque chose, mais ils ont simplement découvert. Ils ont simplement découvert, c'est tout. Hein. C'est Dieu qui a tout créé, et les hommes ont assemblé ou trouvé l'or. N'a jamais été créé par les hommes. Ce sont les hommes qui ont trouvé, ils ont creusé, ils ont raffiné. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. C'est lui le créateur. Même si nous ne l'avons pas vu. Les hommes vivent avec tout ce qu'il a créé. Quand je regarde les fourmis, ils sont toujours très diligents à porter leur fardeau, un sac blanc sur leur tête. Et nous, quand on les regarde, et puis certains enfants, ils pissent dessus. Et c'est vraiment une calamité foudroyante. La pisse de 36 degrés, et combien ça doit être salé aussi. Donc pour ces petites fourmis, c'est vraiment la calamité. Donc ces fourmis qui ne sont conscients de rien, les enfants qui pissent sur ces fourmis, et donc ces fourmis sont complètement exterminées. Et l'enfant, je pisse dessus. Donc les hommes font le fier. Mais si Dieu un jour se dit « Bon, je vais les arrêter, je vais les exterminer. » Et les hommes croient prospérer, « Je vais acheter un appartement ici ou là. » Un autre pisse, mais un autre, quand il a fini de regarder les fourmis, il les écrase. Des millions meurent écrasés. Puis certains aussi balaient tout. Les hommes établissent une cité. Et Dieu dit un jour, je vais faire exploser cette ville. C'est pourquoi un volcan éclate et les hommes ne sont pas conscients. De même que les fourmis qui ne sont conscients de rien. Les hommes de nos jours, ne voient pas Dieu. De même que les fourmis ne peuvent voir les hommes. Certaines fourmis montent le long de la jambe. Et puis on frappe dessus et ces fourmis meurent.
그걸 개미를 때려치는 떨어뜨리는 자도 있고 그걸 발로 긁는 자도 있고
Donc il y a toutes sortes de façons de tuer ces fourmis.
하듯이 우리 하나님이 눈에 보이지 않지만 그는
Ainsi, nous ne pouvons pas voir Dieu de nos yeux, mais il est vivant, il agit, il est tout puissant. C'est le Créateur. Dieu n'est pas un être abstrait, conceptuel. C'est celui qui peut faire sortir toutes les âmes de leur corps. Et mettre fin à tout. De même que les hommes mangent les poissons, hein, qui ne sont pas conscients. Parce que Dieu est une divinité invisible, inodore, impalpable. Mais il existe de par lui-même, il vit à perpétuité. C'est lui le Créateur. C'est le Tout-Puissant. Et il agit. Et quand on dit Dieu, quand on parle de Dieu, ce n'est pas une expression poétique. Ce n'est pas une divinité symbolique. Nous parlons de mythe. Quand nous parlons de mythe, c'est un être de fiction. Certains qui n'ont pas fait l'expérience du Saint-Esprit disent que Genèse chapitre 1 à 11 est un mythe. C'est ce qu'ils enseignent aussi au séminaire. Ce sont vraiment des gens maudits. Comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils disent que Genèse jusqu'à chapitre 11 est un mythe. Alors que nous, en Béret, nous avons le tableau de la volonté de Dieu, que ce n'est pas un mythe, mais c'est la réalité. Bien sûr, les membres de l'église Sangnak ont tellement entendu qu'ils ne savent pas très bien de quoi on parle. Le tableau de la volonté de Dieu, c'est ce qui renverse le mythe. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Quand a-t-il été créé? Quand est-il né? Personne ne l'a jamais fait, n'est jamais né. C'est celui qui était avec Dieu. Dans le Père, il y avait le Fils et le Saint-Esprit. Les trois étaient ensemble. Le Fils est venu, est mort sur la croix, il est monté dans les cieux et est sur le trône créé. Et puis le Saint-Esprit, c'est celui qui sort du Père et demeure en lui. Donc la Trinité ne peut pas être bien perçu aujourd'hui, alors que le Dieu unique, c'est le Dieu de la Trinité. Donc, on ne peut pas utiliser le mot Dieu à tort et à travers. Mais vous menez votre vie de la foi. Et j'ai dit que le christianisme n'était pas un rite. Si on se fondait sur un mythe, cela deviendrait une religion. Dans les séminaires actuellement, comme on se fonde sur la théologie européenne, anthropocentrique, on considère tout comme un mythe. Et ceux qui sont influencés de cette façon font de l'Église une religion. Et le mouvement Béré, c'est ce qui est contre. Nous ne considérons pas la Bible comme un mythe, mais comme la réalité. Parce que le Saint-Esprit se trouve en nous. Et ce n'est pas une impression, c'est la puissance. Si on a reçu le Saint-Esprit, même les démons reconnaissent les démons et sont chassés par lui. Aujourd'hui, j'ai prié pour des centaines de malades avec un cancer. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une impression subjective. Vous mourrez de vieillesse, mais le Saint-Esprit est à perpétuité. C'est lui qui a sauvé le Fils de Dieu d'entre les morts. C'est pourquoi lors de la première résurrection, c'est le Saint-Esprit qui vous ressuscitera. Romains 8, 11. Le Saint-Esprit est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Il est Dieu. Le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit rend témoignage de notre foi. Nous ne croyons pas à un mythe. Notre foi est réalité. Réalité. Les gens mangent du riz, mais ce riz n'est pas tombé du ciel. Ce sont les fermiers qui ont cultivé ce riz. Ce riz a été préparé et c'est ainsi que qu'on a pu le préparer. Et si on ne sait pas du tout d'où provient ce riz, on pourrait peut-être croire que le riz est tombé du ciel. Mais ce n'est pas vrai. Ce riz a été cultivé par des fermiers. Même chose concernant notre foi. Notre foi n'a pas été inventée quelque part. Elle est issue du Dieu, de notre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. L'Évangile, c'est ce qu'on entend, ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, écoutez, que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit dit aux églises entendent. Ce qui est répété sept fois dans Apocalypse. Donc, il faut écouter qui pour que ce soit la foi. Et le message provient de Jésus-Christ. Il faut entendre la parole qui sort de Jésus-Christ. Romains 10, 17. C'est ça la foi. Regardons. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la source de la foi, la définition de la foi, lisons ensemble. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et si on mémorise ce verset, c'est comme si on avait mémorisé toute la Bible. Encore une fois, s'il vous plaît. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ.
Christ
Et d'où vient Christ?
Jean 1, 18.
Jean 1, 18. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jésus-Christ.
Jean 5,
39. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures parlent de Jésus. Jean 20, 30. Jean 20, 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. La Bible a été faite pour qu'on croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, verset 31. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il y a beaucoup de signes. Et c'est pour faire croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'il est le Christ, pour qu'en dépendant de son nom, on ait la vie. Le Fils de Dieu, celui qui est sorti du sein du Père, qui est-il? Regardons Jean 1, 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Lui est la parole devenue chair. C'est pourquoi il est rempli de grâce et de vérité. Et qui est cette parole? Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc vous et moi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ. C'est la parole proférée par le Fils unique qui est sorti du sein du Père, et lui était au départ avec Dieu et était Dieu. Donc, votre foi provient de la parole qui était avec Dieu et qui a été manifestée parmi nous. Et c'est le Dieu qui est sorti du sein du Père qui a proféré la parole. Et la foi, c'est entendre ce qui a été proféré par la parole. Je vous donne 5 minutes pour expliquer ce qu'est la foi. N'importe quoi ne peut pas être foi. Allez expliquer maintenant. La foi, ce n'est pas ce qu'on croit. La racine, l'origine de la foi est bien claire. J'arrive bien à croire. Ça, j'arrive pas à croire. C'est pas ça la foi. C'est pas ça la foi. La foi doit provenir de quelque part. Quelle est la source de la foi? La source. C'est maintenant ou jamais où il faut crier, pas quand vous vous disputez avec votre mari. Quand je demande dans les pays, les gens des pays étrangers, en Indonésie, au Cuba, ils sont très bruyants. Mais c'est en Corée où les gens sont les plus silencieux. C'est vraiment incroyable. Vous êtes les plus silencieux. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est par la parole du Christ. Et Jésus est le Dieu qui est sorti du sein du Père. Et il était au départ avec le Père, avant le commencement. Il était Dieu. Donc notre foi provient de Dieu, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas ce qu'on arrive à croire, non? Pourquoi est-on trompé par des filous? Parce qu'on arrive à croire à ce que disent ces charlatans. C'est pas ça la foi. La foi provient de Dieu. Comment avez-vous pu avoir la foi par de Dieu, par Jésus-Christ, et ce qui est, nous avons entendu ce qui a été transmis par, par le Saint-Esprit. Un autre livre va être paru, La parole de Dieu. C'est parce que vous ne lisez pas que vous n'avez pas la puissance. Certains démontrent la puissance, mais sont inquiets parce qu'ils savent vraiment, ils ne sont pas sûrs que ça va durer. La puissance est semblable au courant d'eau du fleuve qui court. C'est le même principe. Là où la rivière coule, les poissons vivent. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poissons. On ne peut pas avoir la puissance si la foi n'est pas normale. Les fidèles de notre Église sont des bergers laïcs, des enseignants. Nous avons la puissance, la qualification pour faire des disciples en les enseignant. Et c'est aussi notre responsabilité, notre autorité. C'est pourquoi les Béréens et les membres de l'Église Sanglac sont vraiment bibliquement et spirituellement au plus haut niveau. Ce n'est pas pour vous flatter. J'ai parcouru le monde entier.
안 가보면 지가 세계 어디를 가봤다고 뭐 아는 지 않냐고 하는지 모르지만 전 우리 집에서 나만큼 세계 골고루
Personne n'a jamais voyagé autant que moi dans le monde entier. Personne n'a visité autant de pays du nord au sud. Les cinq continents, même en Amazonie, en Europe, en Afrique, en Asie, mais vous, et aucun pasteur n'a voyagé autant que moi, aucun pasteur coréen. Et le niveau spirituel est vraiment très élevé à l'église Sanglak. Mais il faut que ce soit bien précis. Il y a diverses sectes de nos jours. Et je n'arrive pas à croire que certains de mes fidèles se fassent tromper par ces sectes. Nous devons croire à la Bible telle qu'elle. Et l'enseignement Béré, c'est vraiment la fin de tout. C'est le dernier enseignement sur cette terre. Jésus, c'est la foi ultime. Si on transcende Jésus, certains sont venus, sont allés à Jésus et sont passés. D'autres ont étudié Béré et ont transcendé. Et les disciples ont dit, je ne sais pas ce que vous voulez dire, et l'ont quitté. Et ils ne reviennent plus. Et vous aussi, vous voulez me quitter. Tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous? C'est parce que Pierre a su ce qu'était que la vie, la parole de la vie éternelle, qu'il ne l'a pas quitté et qu'il est mort martyr. Mais certains ont écouté Jésus pendant 3 ans et l'ont quitté. Et c'est un enseignement trop difficile. Et nous trouvons ça bizarre qu'ils puissent quitter Jésus. Ils l'ont transcendé. Et aujourd'hui, ça arrive. Béré, c'est pas tout. Ils transcendent. Béré, c'est retourner à la parole. On revient à la parole. Et le point focal du retour, c'est comme une aiguille. Béré, c'est retourner à la parole. Et c'est aussi fin que, qu'une aiguille. Mais si on transcende ça, où va-t-on? On vient à l'église, on participe aux croisades, aux séminaires. Mais on n'a pas trouvé le point focal de l'aiguille. La loi et les prophètes ont duré 2000 ans, historiquement parlant. Et pendant 2000 ans, il y avait la loi, les prophètes, l'enseignement de Moïse. Et ça a pris fin avec Jean-Baptiste. À partir de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est pris par la violence. Donc le point focal est aussi fin que, qu'une aiguille. Mais comme on ne connaît pas la foi, on se corrompt, on tombe. Il y avait 10 vierges qui attendaient le marié. Et à la fin, les 5 n'avaient pas assez d'huile, sont allés le préparer, et quand elles sont revenues, la porte était fermée. Les dix au départ attendaient, tous attendaient. Mais les cinq qui se sont prises trop tard, qui ont préparé trop tard, le but était le même en fait. Le but était le même, elles attendaient toutes le marié, mais après que la porte était fermée, ils n'ont pas pu entrer. Lors du déluge de Noé, Dieu a commandé de fermer la porte de l'arche, et c'est au bout de 7 jours qu'il a commencé à pleuvoir, pas dès le premier jour. Donc on n'a pas fermé la porte quand il a commencé à pleuvoir, avant que les gouttes ne tombent 7 jours auparavant. Et imaginez le nombre des gens qui ont dû s'accrocher à l'arche. Et à cause du bruit de la pluie, on n'a pas pu entrer. On n'a pas pu entendre les cris des autres qui appelaient au secours. Les 5 vierges retardataires se sont prises trop tard et sont accourues et la porte était fermée. Et c'est ça l'enseignement de la Bible. Quand nous imposons des mains aux malades, on leur pose la question, hein, ça fait 2 semaines que je suis venu à l'église, 5 jours. Ça veut dire, ça fait 5 jours que j'ai cru en Jésus. Ça ne veut pas dire, ça fait 5 jours que j'assiste à cette croisade et je me dis, c'est trop tard. L'âme est sauvée, mais elle ne peut recevoir la puissance pour pouvoir maintenir la chair. Donc, celui-là a cru en Jésus, donc il a le salut. Son âme n'ira pas en enfer. Mais c'est seulement quand il a la puissance qui peut chasser les maladies. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevrez les puissances. Après le Saint-Esprit, les puissances. Et pour la puissance, il faut se repentir et être baptisé. Ensuite le Saint-Esprit et ensuite les puissances. Donc celui-là est venu à l'église, il a cru en Jésus, donc il a le salut. Mais il n'a pas l'occasion de recevoir les puissances. Donc il n'a pas la puissance de surmonter les maladies malgré son salut. Donc c'est dommage. Mais en fait, c'est simplement prolonger la vie de la chair que la guérison. Si notre foi dévie, c'est grave. Je ne prêche pas des doctrines. Je ne prêche pas non plus une religion ou des doctrines. Seulement la foi. Parce que seule la foi aboutit au salut. Seule la foi permet de devenir enfant de Dieu, de servir Dieu, d'être régénéré, de recevoir le Saint-Esprit, de participer à la première résurrection. Et la foi est semblable à la pointe acérée d'une aiguille. C'est un point focal très précis. Toutes ces histoires dans la Bible aboutissent au point focal, un point focal, aussi minime qu'une aiguille. C'est pourquoi, quand on croit, on ne périt pas, mais on a la vie éternelle. On obtient la vie éternelle quand on croit. Et la foi consiste à gagner les cieux et La foi provient de ce qu'on entend, c'est-à-dire de la parole du Christ. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole est Dieu. Et Dieu, ça veut dire ça n'a pas de signification symbolique ou mythique. Dieu est une réalité. Vous pouvez avoir vu votre grand-père ou arrière-grand-père, mais pas au-delà. Vous n'avez jamais vu vos descendants, mais vous êtes sûr qu'ils existent parce que vous êtes vivant aujourd'hui grâce à eux. C'est parce que vous êtes vivant, que vous êtes une réalité, que vous êtes sûr que vous êtes une réalité, vous n'êtes pas une idée. Vous êtes du vent. Vous êtes une réalité vivante. Et comment êtes-vous né grâce à vos ancêtres? Et au-delà, quand on remonte à la source des ancêtres, on aboutit à Adam. Et à partir d'Adam, c'est Dieu. Spirituellement, on aboutit à Adam et ensuite à Dieu. Physiquement, au Néphilim. Donc, je suis vivant. Cela, cela prouve que Adam était vivant, que c'était une réalité. Et l'existence d'Adam témoigne de l'existence de Dieu qu'il a créé. Donc, si on ne reconnaît pas Dieu, c'est dire qu'Adam est Dieu. Si on ne croit pas que Dieu a été créé, on considère que Adam c'est le dernier, c'est l'ultime. C'est dire qu'Adam est Dieu. Eh bien, on va en enfer si Adam est Dieu, si prétendre que Dieu est qu'Adam est un homme. Beaucoup de nos jours disent que les hommes sont Dieu. Par exemple, Dieu est esprit, je suis enfant de Dieu et Dieu est notre Père. Et comme donc les enfants de Dieu sont aussi Dieu, n'est-ce pas? Certains aussi concluent de cette façon. C'est pourquoi beaucoup professent être le Saint-Esprit ou même Jésus. Et puis aussi certains croient. Levez la main si vous croyez que je suis le Saint-Esprit. Levez la main si vous voulez me suivre. Je suis sûr que vous, vous allez dire à notre pasteur, il est devenu fou. Mais c'est vraiment étrange. D'autres suivent ceux qui professent être le Saint-Esprit. Notre foi n'est pas une fiction. C'est une réalité. Nous ne s'accrochons pas aux paraboles. D'où provient notre foi? Si la foi provient de fond de nous-mêmes, c'est la conviction qui ne peut nous sauver. La conviction ne peut nous sauver parce que ce doit être une foi universelle qui doit sauver tout le monde, sa famille, son pays. son peuple, l'humanité entière. Il faut l'universalité. Mais conviction, c'est ce qui est personnel. C'est une croyance personnelle. Si j'achète un billet de loterie, je gagnerai. C'est une croyance personnelle qui ne peut être partagée par les membres de sa famille. Alors que notre foi est partagée par moi, les membres de ma famille, mon peuple. C'est exactement la même foi pour tous. Et c'est la raison pour laquelle nous écoutons des sermons, hein, parce que un pasteur parle de la foi pour que tout le monde ait la même foi. Notre foi ne sort pas de nous-mêmes, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole qui est émise par Jésus-Christ. Qui est-il? C'est le Fils qui est sorti du sein du Père. Et qui est-il? C'est la parole qui était avec Dieu au commencement. L'autorité de la parole est l'autorité de Dieu. Nous n'avons pas élevé artificiellement la parole au niveau divin. Non. Vraiment, croyez-vous que la parole est Dieu? C'est ça la foi. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça ne veut pas dire que le langage est Dieu. C'est pas le langage. Quand j'ai dit Dieu, c'est celui qui existe par lui-même. Le Tout-Puissant, le Créateur. Une réalité. Pourquoi dit-on que c'est la parole? Je l'ai dit hier. La parole, c'est la limite ultime pour Dieu de se révéler aux créatures. C'est la limite du Tout-Puissant en ce qui concerne sa révélation. Et puis la parole aussi, c'est la limite des hommes pour voir Dieu, pour le connaître avec leurs sentiments, leurs sensations, leurs raisons. C'est la limite ultime de la connaissance humaine, c'est la parole. C'est ça la parole. Donc, c'est par l'intermédiaire de la parole que Dieu voit les hommes et les hommes voient Dieu. Donc, la parole permet aux hommes de comprendre Dieu, de le servir, de devenir ses enfants. C'est la grâce suprême donnée aux hommes, c'est la parole. Et c'est par la parole qu'on peut croire, comprendre Dieu, dépendre de lui, lui obéir. C'est la limite. Donc si on transcende la parole, c'est rien du tout. La parole. Mais la question est de savoir comment vous considérez la parole. Qu'est-ce que la parole pour vous? Je ne parle pas de mots. Le langage humain ne peut pas devenir parole. Langage est son. Langage est fait de son. C'est pourquoi en grec c'est phoné. C'est ce qui transmet simplement la signification, c'est rien. Les mots sont des sons. Alors que la parole, La parole est Dieu, c'est Logos, la parole. Et il n'y a pas d'autre moyen pour exprimer la parole là. Vous savez vous-même si votre foi est normale ou pas. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dites amen si c'est ça votre foi. Dites oui si vous n'avez pas encore à croire. Vous êtes bien éveillé ce soir. Dites amen si vous croyez que cette parole est Dieu. La parole est Dieu, c'est pas une abstraction, quelque chose de vague. Non. La parole est Dieu. Cette parole a créé, sa parole est toute puissante. Et cette parole peut tout faire parce que cette parole est Dieu. Je ne dis pas que les mots sont Dieu. Logos. C'est la condition parfaite qui permet de comprendre Dieu par notre personnalité. Dites amen si vraiment la parole pour vous est Dieu. Mais obéissez-vous à cette parole alors? Obéissez-vous. Jean 12. Si vraiment vous croyez que cette parole est Dieu, Jean 12, 47 à 50. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. Si vraiment vous croyez que la parole est Dieu, aucun d'entre vous ne s'y opposerait. Et désobéir à cette parole en disant que cette parole est Dieu, c'est mépriser Dieu ouvertement, le renier ouvertement. Pouvez-vous vous permettre de mépriser Dieu, de le nier? Pouvez-vous blasphémer sa parole, la briser? Jésus est venu en tant que Christ sauveur. Donc, comme c'est le temps de la grâce, il ne tient pas compte de ceux qui vont périr. Il fait tous les efforts pour sauver et prêcher la parole de la grâce. Mais même si vous n'observez pas mes paroles, je ne m'occupe que du salut. Mais quelqu'un vous jugera. La parole que j'ai proférée vous jugera et je ne parle pas de moi-même. Cette parole, c'est le Père en lui qui me dit de la prononcer et je sais que son commandement est la vie éternelle. À quoi ça sert d'avoir une foi qui ne mène pas à la vie éternelle? On a une religion pour se cultiver le caractère, non pas pour avoir la vie éternelle. Il y a le corps et puis l'esprit. De même que le corps peut être maîtrisé, ils veulent se maîtriser le caractère. Nous ne sommes pas des religieux qui essayons de cultiver notre caractère, notre personnalité. Quand la chair prend fin, Et quand notre, nos âmes quittent la chair, où iront-elles? Vous pensez, vous parlez, vous sentez être en vie. Le fait d'être en vie, je me connais, je sais si je suis un homme ou une femme. C'est vous qui êtes vivant. Vous êtes vivant et c'est une réalité, n'est-ce pas? Mais un jour, la chair prend fin. Et aux yeux des autres, celui-là a disparu. Son esprit, son cœur, sa personnalité. Mais ce n'est pas vrai. L'esprit est toujours là. L'âme. On croit toujours au Dieu auquel on croyait. L'esprit connaît toujours le même Dieu qu'il connaissait quand il était dans la chair. L'esprit, l'âme, va au paradis avec la même foi. Tout ce qui est culturel et mondain, la connaissance de la chair disparaît avec la mort. On n'emporte pas tout ça au paradis. Vous n'allez pas au paradis avec vos diplômes universitaires. Mais vous y allez avec la foi. Donc la vérité, c'est la parole de la vie éternelle. Vous écoutez la parole de Dieu et vous croyez. Et la foi, c'est croire en la parole. Et cette, par la foi, on a connu Jésus, le Saint-Esprit, son mérite, la vérité. On a obtenu l'espoir. Tout ça est spirituel. Et c'est ce qu'on emporte avec soi, même quand la chair meurt. Ce sont mes vêtements. Mais si je les enlève, le corps bouge. Donc la chair est semblable à ses vêtements. Maintenant, les deux bougent ensemble. C'est parce que l'esprit est dans la chair que la chair bouge. Et une fois que on se débarrasse des vêtements, les vêtements sont là. Quand l'esprit se sépare de la chair retourne à la poussière du sol et l'esprit entre dans la gloire. Ma connaissance se trouve en moi, pas dans mes vêtements. Même chose, la foi que j'ai ne disparaît pas avec la chair, mais c'est contenu dans mon âme. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a toutes sortes d'accessoires de couleurs. Ce sont les caractéristiques des vêtements qui disparaissent avec les vêtements. Alors, donc, la connaissance culturelle, académique, tout ce qui est mondain disparaît avec la chair. Et on ne peut pas emporter tout ça au paradis. Les Néphilim, dans Genèse 6, 4, c'était des hommes célèbres. C'est-à-dire que c'était des hommes civilisés avec une connaissance, une culture, une organisation, des traditions. C'était des hommes civilisés. Mais ce n'étaient pas des hommes spirituels. Dans Genèse 6, 1, il y a l'humanité des hommes et il y a aussi l'humanité de Dieu. Les fils de Dieu, Elohim, pas comme Dieu le Créateur, non, mais fils de Dieu, ça veut dire des descendants spirituels, les descendants d'Adam. Donc l'humanité qui est constituée des descendants d'Adam. Les néphilim n'ont pas de connaissance spirituelle. Les incroyants ont leurs esprits morts, donc ils ne possèdent pas la vérité, l'évangile ne peut pas entrer en eux. C'est pourquoi ils périssent, parce que la vérité ne demeure pas dans leurs âmes. La vérité ne peut pas se trouver dans leurs âmes, puisque leurs âmes sont mortes. C'est seulement quand elles peuvent recevoir la vérité. Elles n'ont pas reçu la grâce. Après leur repentance, il faut recevoir la grâce et puis le Saint-Esprit. Donc les incroyants sont morts spirituellement. Donc la vérité, le nom de Dieu, Jésus ne peut les pénétrer, le Saint-Esprit ne peut les pénétrer. Donc ils ont un esprit, mais c'est un esprit mort. La connaissance retourne à la poussière du sol. Et l'esprit ne connaît pas le Dieu vivant, donc ne peut que périr. Alors que vous et moi, nous avons la chair et l'esprit. On peut ne pas être entré à l'école primaire. Donc, du point de vue de la chair, on peut être faible et démuni, mais si on prie beaucoup, si on connaît la vérité, on peut être riche spirituellement. Et la connaissance n'entre pas dans la tête, mais dans l'âme. Quand le Saint-Esprit entre dans nos âmes, il scelle cette âme, il rappelle l'âme et lui fait comprendre. Donc la connaissance de Dieu est possédée par l'âme, non pas par la raison. Donc toute la connaissance de la chair disparaît avec la chair quand elle meurt. Alors que la foi détenue par l'âme va au paradis avec l'âme. Et le jour de la venue, on participe à la première résurrection pour entrer dans la vie éternelle. Donc, la connaissance que vous recevez par votre tête et la connaissance que détient votre âme sont différents. Le Saint-Esprit est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. Comment pouvez-vous connaître la volonté de Dieu, les profondeurs de Dieu, son cœur? 1 Corinthiens 2, 16. Qui connaît le cœur de Dieu pour l'enseigner? L'homme spirituel possède le cœur de Dieu parce que le Saint-Esprit seul connaît les pensées profondes de Dieu. C'est seulement par le Saint-Esprit qu'on peut devenir des hommes spirituels pour connaître la situation de Dieu. Donc le Saint-Esprit n'entre pas dans la tête, mais dans l'âme. Donc même si la chair et l'esprit se séparent, le Saint-Esprit ne nous quitte pas. C'est pour Romains 8, 18, le Saint-Esprit qui a sauvé Jésus d'entre les morts ressuscitera nos corps. Qu'a dit Jésus quand il est mort? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et quand le brigand est mort, souviens-toi de moi dans ton royaume, tu seras avec moi au paradis. Il va retourner, il va être enterré, et Jésus dit, tu vas être avec moi au paradis. Alors, le sous-sol, c'est le paradis pour Jésus, non? Au moment où Jésus est mort sur la croix, sa chair a porté tous les péchés du monde. Et il est mort avec ce corps. Mais l'âme, instantanément, est allée au paradis. Donc, il y a la division entre la chair et l'esprit. La chair détient toute la connaissance, habitude du monde, les expériences de la chair et tout ça retourne au sol, alors que l'âme va au paradis. Quand vous écoutez la parole de Dieu, ce n'est pas une parole qui va être versée sur la terre, vous comprenez ça? Ou alors répondez-vous bêtement. C'est amen si c'est vraiment sûr. Est-ce que vous répondez simplement en tant que religieux, puisque en tant que religieux, parce que le pasteur parle avec zèle, amen. Vous dites amen à pour répondre à n'importe quoi. Amen, c'est mieux que rien. Mais en fait, amen. C'est une affirmation. Cela signifie c'est vrai, je soutiens. Je tiens cela pour vrai. C'est en relation avec la vie, avec la vie éternelle. On dit amen pour soutenir sur son âme, même si ma chair disparaît. Jusqu'au moment où mon esprit entre dans les cieux, je soutiens ceci, je suis complètement d'accord. Amen, c'est l'exclamation de soutien absolu. Notre foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. Lui est la parole qui était dans le sein du Père, qui est venu parmi nous, et la parole était Dieu. Donc la source de la foi, qui est la parole de Dieu, et Dieu dit amen, si vous croyez. Donc combien cette parole est-elle terrible? Je n'ai pas vécu à l'époque de la dynastie Li. Désolé de parler toujours des films que je ne regarde pas souvent, en fait. Quand un roi dit, tout le monde répond, c'est ce que tu feras. Et les serviteurs disent, oui, votre majesté. Et une vie humaine est chère, et le roi dit décapitez-le. Et cela se fait tout de suite. Personne ne peut contester la parole d'un roi. Et en Corée, on a une expression qui signifie que un commandement royal, une parole royale. Et le commandement royal est semblable. À la grêle. Et on compare donc le commandement royal justement au froid en automne qui tue instantanément tous les légumes aussi fraîches et vigoureuses soient-elles. Le poids. Et ces poivres rouges sont très vigoureux. Puis une fois qu'il y a une grêle, ces poivres sont vraiment exterminés, foudroyés en fait. Même chose pour les choux. Donc en fait, il faut les récolter avant le premier coup de froid.
막 며느리 승진되고 있는 것 같이 그냥 배추가 이렇고 시어머니 며느리 앞에서 그냥 압도하듯이 이랬다가 살이 한번 파나면
Et une fois qu'il y a le froid, les choux sont foudroyés.
나오죠? 요새 서리 맞은 배추, 모든 그저 배추.
Quelquefois, on voit à la télévision tous les choux qui ont été foudroyés à cause de ce premier coup de froid en automne. Donc, le commandement d'un roi est semblable au premier coup de froid ou de grêle. C'est foudroyant. C'est ça que ça veut dire. Personne ne peut désobéir ou contester quoi que ce soit. Vous dites que la parole est Dieu. Et vous n'êtes pas du tout terrifié. Vous désobéissez tant vous voulez, quand vous voulez. Mais vraiment, est-ce que vous avez cette foi que la parole est Dieu? Il n'y a aucun moyen de nous opposer à cette parole. Nous devons être meilleurs que les créatures. Les créatures ont obéi à la parole quand Dieu a dit que la lumière soit, par exemple. Nous ne sommes pas des créatures, nous sommes des enfants, les enfants de Dieu. Mais en désobéissant à la parole, nous sommes inférieurs à la création. Quand Dieu dit « Soyez bénis », croyez-vous? Bien sûr que vous croyez puisque vous dites que vous recevez. Mais est-ce que vous croyez que la parole est Dieu? C'est parce que vous ne croyez pas que vous désobéissez, que vous opposez à cette parole-là. Et c'est pas seulement le jour du Seigneur qu'on sert Dieu. On doit servir Dieu toute la semaine. Le jour du Seigneur, vraiment, vous avez une foi admirable. Puis les autres jours de la semaine, c'est parti. Toute la semaine, nous sommes en présence de la parole terrifiante de Dieu. Il faut essayer toute la semaine d'observer cette parole. Certains disent que c'est difficile de croire en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faut vivre selon la parole de Dieu. C'est vrai, c'est pas facile d'aller dans les cieux. C'est pourquoi on ne vous force pas à aller dans les cieux. Si vous ne faites rien, vous irez en enfer, c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de vous dédier, de faire quoi que ce soit pour aller en enfer. Mais pour aller dans les cieux, c'est un peu plus difficile. C'est pourquoi personne ne peut entrer s'il ne passe par moi. C'est pourquoi il faut dépendre de la grâce de Jésus. La parole est Dieu. Il faut que ce soit bien sûr. Il faut avoir cette foi. Autrement, on n'est pas qualifié pour entendre un sermon. C'est pourquoi dans Apocalypse, chapitre 2 et 3, ce que le Saint-Esprit dit aux églises. C'est pourquoi la Bible dit la parole qui sort de Dieu par Jésus-Christ est proférée avec le Saint-Esprit. Jésus nous a demandé de ne pas nous opposer à ce que dit le Saint-Esprit, parce qu'on ne sera pardonné ni en ce monde ni dans le monde à venir. Pourquoi périssons-nous? Parce que nous nous opposons à Dieu. Pourquoi allons-nous en enfer? Parce que nous nous opposons à Dieu. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Parce qu'il a pris sur lui nos péchés pour les payer. C'est pourquoi on nous demande de ne plus jamais nous opposer à Dieu. Notre foi, c'est ne plus s'opposer à Dieu. Nous devons croire que La parole de Dieu est Dieu. Répétons, la parole de Dieu est Dieu. Et si vous avez simplement cette foi, on peut se méprendre, mais la parole était avec Dieu avant le commencement. C'est pourquoi la parole était Dieu. Cette parole connaît Dieu entièrement. Cette parole connaît sa justice, sa volonté, son plan, toutes ses œuvres. C'est pourquoi cette parole est Dieu. Donc, c'est la connaissance suprême de l'homme concernant Dieu que la parole. La parole est Dieu. Je voudrais vraiment que mes fidèles s'agenouillent devant le nom Jésus en croyant que la parole est Dieu. Je ne demande pas plus. C'est parce que cela n'est pas réalisable que c'est le problème. Vous venez avec votre conviction. Le pasteur dit cela, mais moi, c'est comme ça que je crois. Qu'importe ce que dit la Bible, moi, c'est ça que je crois. On est toujours têtu. Et cela n'a rien à voir avec Dieu. Vous et moi, nous devons toutes les connaissances, les moyens humains ont été autorisés pour connaître Dieu, et c'est la parole. C'est seulement par la parole qu'on peut connaître le royaume de Dieu. C'est par la parole qu'on peut voir ce royaume. C'est par la parole qu'on peut voir le Fils de Dieu, connaître le Saint-Esprit. Par la parole, on peut connaître ce qui est éternel, la gloire, la puissance de Dieu, les mystères de Dieu, tout ce qui est avant l'éternité. C'est seulement par la parole qu'on peut acquérir toute cette connaissance. Mais les fidèles de nos jours, combien méprisent-elles cette parole? Ils ne la considèrent pas comme Dieu. Ils font semblant de recevoir la grâce en disant « Amen, Amen ». Et puis une fois qu'ils tombent en tentation, ils disent « Notre pasteur ne parle que de la foi, de la vie éternelle ». Ah, c'était bien, dans une église, on parlait de culture, on parlait de Confucius, de Bouddha, on parle de Beethoven, et c'était amusant. Cela ne mène pas de vie spirituelle. Considère que l'église, c'est aller au théâtre, non. Il faut... La philosophie ne vous mène pas à la vie éternelle. Seule la parole de la vie éternelle mène à la vie éternelle. La loi et les prophètes ne sont pas la parole de la vie éternelle. Ils ont pris fin avec Jean-Baptiste. C'est pourquoi Galates 3, 19, qu'est-ce que la loi? C'est ce qui a été confié jusqu'à la venue du Fils de Dieu. Hébreux 9, 1, 11. Qu'est-ce que la loi? Ce sont les prescriptions pour le culte qui ont été confiées jusqu'à la réforme. La parole de la vie éternelle désigne l'évangile. C'est pourquoi dans Marc 1, 1, le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, c'est à partir de ce moment-là que la vie éternelle commence. Si la loi était la vie éternelle, on pourrait aller dans les cieux avec la loi. Non, elle a été confiée jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et finalement, la parole de la vie éternelle est venue. C'est pourquoi Pierre dit, « Acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Je connais Jésus, alors où irai-je ?» C'est pourquoi la loi provient par Jésus-Christ, Jean 1, 17, alors que la grâce et la vérité proviennent par Jésus-Christ, qui est Jésus. C'est celui qui est sorti du sein du Père, celui qui était avec Dieu. Qu'est-ce que la parole de la vie éternelle? Est-ce qu'il faut savoir? Cela désigne l'évangile, la vérité. Mais une fois qu'on a l'évangile et si on retourne à la loi, alors on est maudit. C'est pourquoi Paul a dit aux Galates, Galates insensés, qui vous a trompé? Vous avez commencé avec la foi et puis vous retournez à la loi. Même un ange, s'il prêche un autre évangile que celui que j'ai prêché, il sera maudit. La parole de la vie éternelle était avec Dieu et a été manifestée. C'est pourquoi notre foi provient de ce que l'on entend. Et ce n'est pas croire à ce que les anges ont prêché. C'est la parole qui provient du Christ qui était Dieu avant, qui était avec Dieu comme parole. C'est Emmanuel, celui qui est avec nous. Donc, il faut bien comprendre ce qu'est que la parole de Dieu. C'est comme si vous étiez assis devant le trône céleste. Comme si vous étiez assis devant Dieu. Et si je n'arrive pas à me soumettre à cette parole, le Christ a porté sur lui cette faiblesse et il a fait en sorte que par la repentance nous pouvions ne pas s'en sortir sans le Christ. Avez-vous vraiment la foi? Vous trouvez-vous vraiment devant la parole, devant le trône de Dieu? La parole est Dieu. Si vous ne le reconnaissez pas, ça ne sert à rien. Mes explications ne servent à rien. Pourquoi? Parce que l'homme est déjà paralysé. C'est pourquoi la Bible dit « Enfant de la colère et par nature, diable, vous êtes sorti de votre père. Il n'y a pas de place pour la vérité en vous. » Donc par le baptême, il faut avoir enterré le passé, couper court avec le passé. Dorénavant, il faut faire en sorte que la parole puisse nous pénétrer. Pourquoi Adam a-t-il péri? Non pas parce qu'il a mangé le fruit, non, c'est parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu qui a demandé de ne pas manger. Cette parole était Dieu, cette parole était vie. Il y a toutes sortes de groupes sanguins. Et quand on se fait opérer, on a besoin de sang. Mais en Corée, on manque de sang. Il paraît que les Américains donnent leur sang 100 fois en moyenne. Un soldat coréen a donné 5 fois de sang. Les Coréens croient qu'ils vont mourir s'ils donnent leur sang, mais plus... En fait, il paraît que qu'on a une quantité de sang qui peut durer que 3 heures pour tout le peuple, la population. C'est vraiment misérable et déplorable. Là. Donc on est obligé d'importer le sang, pardon. Et si ce sang importé provient de l'Afrique où il y a le sida, c'est pourquoi on apprécie vraiment le sang des chrétiens, puisque les chrétiens ne fréquentent pas les prostituées, ne boivent pas, etc. Donc, on doit apporter le sang, et si le sang provient de certains pays africains où il y a le sida, on est contaminé instantanément. Et 600 000 personne peut être condamné. C'est pourquoi je prie pour le sang que je vais recevoir ou que j'aurai un accident de voiture et chez le groupe sanguin où je peux donner à tout le monde, mais je ne peux recevoir que le groupe O. C'est pas juste. Et alors, si je reçois du sang importé, on peut pas faire confiance. Et puis, il y a aussi des moustiques bizarres. Une fois qu'on est piqué en Amazonie, il y avait beaucoup d'avertissements parce que ces moustiques invisibles pondent sur la peau et les œufs apparaissent au bout de 30 jours. Les œufs apparaissent sous la peau au bout de 30 jours. C'est dégoûtant, n'est-ce pas? Et ces bestioles qui pénètrent dans le sang, c'était terrifiant en fait. Donc il ne faut pas que j'ai d'accident de voiture. Je prie. Je demande de ne pas conduire trop vite. Il ne faut pas se presser. Parce qu'une fois que on reçoit du sang, ça va être grave. Vraiment, la transfusion sanguine, c'est ça un grand problème pour moi. Bien sûr, comme je suis vieux, aucune chance que d'avoir un autre enfant. Mais en ce qui concerne les jeunes, s'ils reçoivent le mauvais sang, il n'y a aucun moyen d'éviter le désastre. Et en fait, dans un certain pays en Afrique, ça peut être une exagération, mais il paraît que 2/3 de la population a le sida. Donc, quelle sorte de sang va-t-on recevoir? Et le monde entier s'inquiète au sujet du sang. Et plus vous donnez du sang, c'est bien pour votre santé. Et on ne meurt pas en fait. On peut mourir en suant. Dans un sauna. C'est bon pour la circulation. La parole de Dieu. Jésus dit, buvez de mon sang. Il faut boire le sang du Christ. Et la parole de Dieu, c'est le sang et la chair du Christ, c'est la vie. C'est seulement quand vous buvez mon sang que vous avez la vie. Quand vous mangez ma chair, que vous avez la vie éternelle en vous. La parole de Dieu, ce n'est pas une terminologie symbolique, c'est la vie. De même que nous sommes assis devant le trône de Dieu, il faut se tenir devant la parole de Dieu. Levez-vous maintenant, s'il vous plaît. Fermez les yeux maintenant et demandez à Dieu de vous parler. Décidez de votre attitude devant la parole. Il faut se tenir devant le trône de la parole, devant le trône de la parole, Avez-vous cette intention? Prions tous. Dieu le Père, que nous tous nous agenouillons devant le trône de ta parole, que nous tous devenions des hommes de la parole. Sois avec nous quand nous allons donner nos offrandes. Je prie au nom de Jésus. Amen. J'entends le cantique 500. Dieu le Père, Donne la grâce et les bénédictions à tous ceux qui t'ont remercié ce soir. Donne la même bénédiction et la grâce à tous ceux qui t'ont rendu grâce dans tous les centres de culte, dans toutes les églises. La parole est la réalité, la parole est devenue chair et a demeuré parmi nous, et a versé le sang sur la croix, et a donné la rédemption des péchés, est morte, est montée dans les cieux, et nous a envoyé le Saint-Esprit, et prépare une place pour nous. Et c'est lui qui nous a envoyé la parole. Et c'est en écoutant que nous avons eu la foi et nous t'en rendons grâce. Ils ont compris que la foi consistait à se trouver devant la parole, et comme la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, et que tous vraiment obéissent, se soumettent à cette parole, la craignent, la suivent et dépendent d'elle. Quelles que soient les prières, la vie de la foi, si on méprise la parole, si on n'a pas peur d'elle, si on désobéit à cette parole, qu'aucun ne soit dans ce cas. Jésus est venu nous sauver. C'est pourquoi même si on désobéit à cette parole, il ne juge pas. Mais la parole qu'il a proférée nous jugera, qu'il reçoive tout ceci comme un avertissement. Quand il prie, qu'il puisse vraiment prier devant le trône de la parole, qu'il puisse vraiment s'agenouiller devant la parole, que le Saint-Esprit agisse. Quand le Saint-Esprit vient, il fait connaître la parole, la fait comprendre. Qu'il puisse vraiment s'agenouiller devant cette parole et s'y soumettre. Je prie au nom de Jésus.